et me voyant sans exigence, elle me voulait sans merveille. De mal à seul, du mal à tout.
Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence, mercredi 6 décembre, Saint-Nicolas 2023. Christophe Roland au micro, émission 314. Francis est-il là? Francis n'est pas là, et il devait, il aurait dû être là. Ça n'est pas grave. Enfin, si, c'est quand même très, très grave et très dommage, mais je suis en fort bonne compagnie. Je suis avec une street artiste lyonnaise qui s'invite sur les murs des villes en puisant dans l'humour et la pop culture pour diffuser l'anatomie du clitoris. Banaliser cet organe encore jugé tabou et lutter contre la méconnaissance qui lui est associée. Il s'agit de Clitine, Clitine Da Street, Clitine Under Thunder, peut-on également peut-être dire. Elle a plusieurs pseudonymes. Néanmoins, c'est davantage Clitine, celui qu'elle utilise actuellement. Et je bredouille beaucoup pour ce début d'émission. Et donc, elle vient nous parler de ses œuvres qu'elle dessine sur les murs de Lyon, Croix-Rousse surtout, mais dans d'autres endroits aussi. Donc, nous allons tout savoir sur elle et sur son œuvre. Elle a également publié petite partie dans l'abécédaire des féminismes présents. C'est d'ailleurs à l'intérieur de cet abécédaire que j'ai sorti la présentation que j'ai faite à l'instant. Donc parlons avec notre invitée pendant toute cette émission. Commençons avec un premier titre qui est un à peu près. Vous allez voir qu'elle est très sensible aux à peu près avec Clint Eastwood, également Clint Burton, Gisèle Halicklit. Ce sont toujours ces petits dessins qui sont faits dans les rues de Lyon, sur les murs de Lyon. Commençons avec Miss Clitine, le titre Professional Distortion, et nous discuterons ensuite avec notre invité jusqu'à la fin de l'émission, qui aura lieu à 15h comme tous les mercredis. Vous nous écoutez, vous faites bien, sur le 102.2 de la bande FM, et si c'est sur internet, c'est très bien aussi, c'est radiocanu.org.
I have no right to complain.
C'était parfait pour commencer. C'était donc un titre de Miss Kittin, extrait d'une compilation des Inrecuptibles Made in France 2004. Miss Kittin, bonjour Clitin.
Bonjour.
Il y a bien le KL, alors que Kittin, c'est K-I-T-I-N. Et d'ailleurs, Miss Clitin existe, hein, c'est ça?
Elle n'existe pas encore, mais elle est dans la liste des personnages potentiels.
Voilà, elle est dans la liste. comment mieux présenter Clitin d'Astrid que ne l'a fait Feu? Eh bien, peut-être de manière très simple, c'est en vous laissant la parole. Comment pourriez-vous nous indiquer un portrait qu'on pourrait faire de vous? On a un peu plus que deux, trois mots, hein, ça peut aller sur sur 5-10 minutes. C'est comment retracer un parcours qui vous conduit à devenir cette graphiste, street artiste, je ne sais pas quel terme
employer.
Dessinatrice peut-être.
Bien, ouais. Eh bien, moi c'est Clitin, je suis une femme, j'ai 34 ans, je vis à Lyon et je suis née dans la campagne du Sud.
Est-ce toujours le Rhône?
Non, c'est le sud. Ah, mais pour les sudistes, Lyon, c'est le nord.
Ah non, mais je pensais le sud du Rhône. Non, c'est quand même vraiment bien plus bas.
On est très de mauvaise foi, les sudistes.
Vers Bouches du Rhône, où on est encore...
Non, c'est pas tout à fait là. Bon. Je dirais pas. Et donc, j'ai grandi à la campagne. Voilà, j'ai deux grands frères, un demi-frère qui dessinait, avec qui j'ai dessiné quand j'étais enfant, principalement des sirènes et des sorcières, il m'a dessiné. Et puis bah voilà, j'ai grandi là-bas, c'était jusqu'à mes 8 ans, puis après j'ai déménagé en ville avec ma mère et mon frère, quand mes parents se sont séparés. Donc voilà, et puis bah, la ville, ça a été une nouvelle époque, parce qu'en fait, je pense que ça explique pourquoi je dessine aujourd'hui, c'est que j'ai grandi dans les violences conjugales. Et donc, voilà, c'est des violences qui ont eu lieu à ma génération, les générations supérieures, etc. C'est un gros héritage dans ma famille. Et le dessin, l'imagination et à peu près tous les médiums artistiques, en fait, parce que j'adore chanter, j'adore danser, j'adore le cinéma. Mais le dessin et l'imagination, ça a été, je pense, ce qui m'a aidé à survivre dans tout ce bazar. Et c'est aussi ce que les générations du dessus, notamment du côté de ma mère, ont mobilisé aussi pour survivre.
En termes de production, alors, surtout, ou également en lecture, en visionnage, est-ce que...
En production, là, je parle de fabriquer de l'art, quoi, en fait.
Réalisation.
Pour s'exprimer, en fait. Parce que quand on vit des choses comme ça, on a tendance un petit peu à se couper de ses émotions. Et donc, c'est des canaux qui sont extraordinaires pour ça.
Mais je relance quand même un peu la chose, pas forcément de lecture ou des films. Il y a une princesse Mononoclite qui, elle, existe, hein, je crois.
Non, bien sûr. Alors, évidemment, comme je disais, j'adore le cinéma. Donc, évidemment, je regarde aussi beaucoup de films, de dessins animés. Puis aussi, j'ai des origines japonaises, donc du côté de ma mère. Donc, y a beaucoup de films, par exemple... J'ai fait un Takeshi Kitano.
Kitano, il est assez récent lui, non?
Ouais, il est assez récent, qui est inspiré de l'affiche du film Hanabi de Kitano, et qui est un film que j'aime beaucoup. Et parce que, voilà, il parle pas vraiment des femmes, Kitano, mais il a toujours une pensée quand même pour les femmes. Et dans ce film, il y a une scène terrible où il y a une femme, un yakuza qui rentre chez lui, qui est très très violent. Et, Et sa femme a l'air très mal en point. Elle amène tous les enfants sont à table, le mari est à table. Elle amène la nourriture et quand elle a posé, qu'elle s'est assise, elle s'effondre et elle meurt. Donc c'est quand même, c'est pas forcément un homme qui a axé son cinéma sur la femme, mais qui avait toujours une pensée pour les femmes quand même.
Je crois qu'on y est. Il faut donc poser cette question. Et alors, qu'est-ce qui vous fait basculer, en quelque sorte ? Enfin, je ne sais pas quel autre mot employer. Qu'est-ce qui fait que vous vous mettez ces dessins que vous faites, je suppose, dans des cahiers ou sur du papier canson, enfin, dans différents types d'ouvrages. Qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à les non pas les peindre, hein, c'est plutôt au feutre, c'est ça, ou à les dessiner sur les murs de la ville de Lyon, pas que Lyon, hein, je crois, si c'est
principalement Lyon, mais il y en a eu ailleurs. Qu'est-ce qui fait basculer en fait à ce moment-là? Donc je suis parce que un autre truc que j'ai investi aussi, c'est l'école et parce que c'était pas un endroit violent pour moi, donc j'étais très à l'aise à l'école et donc j'ai fait le maximum d'études qu'on peut faire. Je suis allée jusqu'au doctorat, j'ai soutenu ma thèse, mais pendant ma thèse, c'était, je pense que c'est un moment qui était difficile puisque tous les doctorants galèrent, sont en déprime pendant leur thèse. Et aussi, je pense que c'est un moment où je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas mon meilleur moyen d'expression, que j'avais un petit peu lâché l'imaginaire. Mais je me souviens quand même au début de ma thèse de dire à mes collègues doctorants que finalement, j'avais envie de faire de la fiction pour raconter la même chose qu'un chercheur raconte, mais sous un autre format. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà bien ciblé, mais que j'avais un petit peu oublié pendant ma thèse. Et puis, j'ai eu envie de dessiner, de m'approprier les murs, parce que j'adore, j'ai toujours aimé regarder les messages écrits, qu'ils soient très stylisés ou pas du tout, les dessins aussi. Je me suis toujours intéressée au street art. J'ai une mère aussi qui était très attentive à ça. Et puis à un moment, j'ai voulu faire moi-même, passer le cap moi-même. Alors à la base, c'était plutôt pour écrire un message personnel à une personne. Et puis une fois que j'avais fait ça, il y a comme un virus. Et j'avais envie d'écrire partout. C'est comme ça que j'ai compris pourquoi il y en a qui écrivent partout la même chose sur les murs. Après, ils ont certainement leurs raisons propres. Mais voilà, moi je l'ai vécu comme ça. Puis comme j'ai tendance un petit peu à politiser les choses, je me suis dit j'ai envie de parler aux gens. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? La rue, il y a tout le monde qui passe, on peut parler à tout le monde. Et c'était une époque, donc c'est en 2019, où on commence quand même bien à diffuser en fait l'anatomie du clitoris au grand public. Il y a plusieurs phases, hein, parce que c'est une découverte entre guillemets, parce que c'est une redécouverte qui a lieu en 98. Mais ça prend une vingtaine d'années finalement pour que ça se diffuse dans la société. Et voyant en fait l'initiative d'artistes, de militantes, etc. pour faire ce travail-là, j'ai voulu aussi faire ma part. Et du coup, c'est comme ça que très spontanément, hein, parce que ça a pris 10 secondes, je me suis dit que j'allais dessiner des clitoris. Ah, et ça commence donc par des clitoris que je ne sais pas vraiment bien dessiner, pour être tout à fait honnête. Et puis à force de le faire, je me rends compte que ça ressemble à un bonhomme quand même, cette anatomie. Et puis naît un personnage, et puis après qui s'habille, où je fais des jeux de mots, où je joue avec la pop culture, ou des références connues, parfois pas trop, parce que Takeshi Kitano, c'est pas forcément connu de tout le monde. Et puis je le décline dans plein de variantes. Je sais même pas combien j'ai fabriqué de personnages, mais j'en ai fait beaucoup.
Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, il y a deux champs de questions qui s'ouvrent à nous là, et aurons-nous le temps? Oui, on aura bien le temps. C'est comment dire du clitoris, comment le représenter? Je suis en train de rechercher, c'est Hélène O'Connell, c'est
exactement,
ça, qui en 98. Et puis aussi, après l'exercice pourra peut-être sembler encore plus compliqué, et d'un autre côté ça pourrait être plus simple, c'est comment parler à la radio de ces petits personnages. Peut-être qu'on peut commencer par là, et puis ensuite il faudrait donc davantage, sans forcément partir dans les idées reçues sur le clitoris, un bel ouvrage de Sylvie Chaperon et Odile Fillot, ni non plus dans l'histoire politique du clitoris, un excellent ouvrage aussi de Delphine Gardet. Comment tout de même parler de cet organe, parce que il y a une phrase que vous employez, vous, ou qu'elles emploient, la partie immergée de l'iceberg. À travers cet organe se trouve quand même Tout un propos. Enfin, il y a bien plus que seulement une belle dimension quand même. C'est quelques centimètres. Hein. C'est quand même presque 10 centimètres.
Alors,
hein,
en moyenne, sur tous les échantillons de personnes qu'on a regardé ça, on est entre, je dis pas bêtise, entre 9 et 13 centimètres.
Il y a eu des impressions 3D qui ont été faites dernièrement.
Oui, alors en fait ça a
et
été.
Et puis même imagerie aussi.
Exactement. Donc en fait, à partir de 98, donc il y a cette redécouverte. On découvre pas le clitoris. Hein, on découvre l'anatomie complète. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que le clitoris, c'était la surface extérieure émergée de l'iceberg. Sauf que, en fait, à l'intérieur, il est beaucoup plus grand, sous la vulve exactement, à cheval sur le vagin et l'urètre, se trouve le clitoris, en fait. Donc, et en fait, c'est comme un bonhomme. Il faut imaginer un bonhomme avec une tête, de longs bras, des bras aussi longs que ses jambes, un tout petit buste et des longues jambes.
Les bulbes, hein, c'est ça, je crois,
voilà,
le terme aussi.
La tête, c'est le gland, c'est ce qu'on voit qui sort sur la vulve. Et puis les bras, c'est les piliers, on les appelle, qui sont en dessous. Et puis,
plus mince, donc.
C'est ce qu'il y a de plus fin, c'est pour ça qu'on disait des bras, quoi, comme des bras. Et puis les bulbes, c'est l'équivalent des jambes qui sont très, proéminentes quand même. Et après, donc, tout ça, c'est relié par le plexus de Cobalt, la tige, etc. Après, il y a tout un système nerveux aussi à l'intérieur qui permet, et sanguin, qui permet au clitoris de se gonfler. Donc, il est érectile, lui aussi. Il n'est pas inactif non plus. Et donc, Hélène O'Connell montre tout ça, hein, dès 98, mais elle fait toute une série. Donc, elle utilise la méthode de la dissection, comme ça avait été utilisé bien avant, en fait. À la Renaissance, ils avaient aussi utilisé la dissection pour le trouver.
Avec Fallope, notamment, c'est ça?
Ouais, il y a Fallopio et Colombo. Ils ont une controverse autour de ça, mais à l'issue de cette controverse, ils actent quand même, ils cartographient. Et c'est la description la plus précise et la plus ancienne qu'on a retrouvée, sous réserve qu'on trouve d'autres traces, mais voilà. Et puis, donc Hélène O'Connell redécouvre tout ça avec exactement la même méthode. Et puis après, donc ça c'est entre 98 et 2005, elle fait toute une série d'études. Elle refait de la dissection. Et puis à la fin, en fait, elle utilise l'IRM pour pouvoir photographier, enfin déjà observer et, les réactions du clitoris, etc. Et le photographier, ça nous donne la première représentation, la première image 3D. Et à partir de ça, donc il y a d'autres recherches, notamment avec Odile Buisson. Et puis arrive Odile Fiode en 2016, qui est ingénieure, elle, qui quand même a fait des sciences humaines aussi. Et elle, à partir, je pense, faudrait lui demander, mais à partir en tout cas de tous ses travaux, elle peut, parce que Odile Buisson fait une échographie aussi, donc on voit encore mieux, ça confirme ce qu'Hélène O'Connell a trouvé. Et bah, Odile Fiode a cette idée de génie de faire le prototype 3D du clitoris, de le mettre en accès libre sur Internet, de l'imprimer en 3D. Et là, c'est une grande révolution. C'est comme ça qu'on peut le tenir dans la main, le montrer et le diffuser. Et c'est comme ça que, enfin, pour moi, c'est le moment de bascule qui fait qu'on commence à en parler et que ça se diffuse au grand public.
Vous avez indiqué une année, 2000...
Donc, elle fait le prototype en 2016 et c'est très intéressant parce que donc, là, il commence à se diffuser. Et en 2017, c'est là où il apparaît dans un manuel scolaire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard.
C'est bien, en fait, vous avez, par cette réponse très précise et sourcée, référencée, vous avez répondu à la question que je posais aussi sur cette représentation, comment parler à la radio, vous l'avez très bien dit, quoi. C'est vraiment un petit bonhomme, vous ne faites qu'ajouter des yeux, une bouche à peine, je crois, un sourire, c'est ça, et puis il y a peut-être un petit cheveu, c'est ça que vous mettez, je crois, mais sinon, enfin voilà, les éléments, ils sont les bras, les jambes, et puis bon, après, quand vous partez sur Princesse Mononoclite ou Takeshi Kitano, il y a des éléments, des accessoires qui apparaissent.
Oui, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir mettre des accessoires ou que, en voyant ce bonhomme, plus le jeu de mots, parce que le langage aide aussi, les mots aident aussi à ce niveau-là, et puis se faire reconnaître Brigitte Fontaine au lieu de Priclite Fontaine ou Clitorus, le duo russe en clitoris, etc. Quoi. Donc, il faut toujours trouver. c'était un problème quand je faisais de la science, mon souci du détail. mais du coup, là, j'ai pu le mettre à profit pour trouver les détails qui font qu'on reconnaît la référence.
Ah oui, non, c'est très net. Auditeur, auditrice, je ne peux que vous renvoyer au compte Instagram, ou bien peut-être que dans des lieux lyonnais, on peut trouver des impressions, on peut trouver des tirages, on peut aussi trouver des différents objets, des calendriers, et peut-être, je suis en train de teaser la deuxième partie d'émission, nous allons entrer davantage peut-être dans le détail, ou pas forcément, enfin, on va peut-être encore tenir d'autres propos sur le clitoris, des propos peut-être politiques, ça pourrait être intéressant d'évoquer, ou sociologiques, et puis on va aussi indiquer, donner des adresses, si vous souhaitez, je crois qu'il y a une période de fête qui approche, donc si vous souhaitez faire des cadeaux, il y a un beau calendrier, je crois, qui existe de 2024, et bien vous avez à l'instant, Clitine, parlé de mots. Vous avez parlé de jeux de mots, enfin, me semble-t-il, vous avez un peu évoqué la chose. Je crois qu'on est tout à fait disposé à écouter un titre que vous avez suggéré. Pourriez-vous l'annoncer, le présenter en deux, trois mots pour indiquer de quoi il s'agit. Et puis on écoute ce titre et on poursuivra ensuite.
Alors, il s'agit d'une vieille chanson, je n'ai plus l'année, mais...
Je vais la retrouver, je ne l'ai pas sous les yeux non plus.
Ce serait super. De Colette Renard, qui s'appelle La nuit d'une demoiselle, et qui, pour moi, je pense qu'il y a eu tellement de tabous par rapport à l'intimité féminine, etc., et à la sexualité des femmes, et je trouve que c'est une chanson super pour repeupler le langage qui nous manque, à mon avis.
Sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais froyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Merci beaucoup, Clitine, pour ce titre qui est vraiment savoureux. Auditeur, auditrice, si vous écoutez les bandes continues de Radio Canu, vous avez déjà dû l'entendre, Les Nuits d'une Demoiselle de Colette Renard. On vient d'en retrouver la date, Clitine, c'est donc...
63 apparemment.
Les années 60, oui. Vous pensiez plus ancien ce titre.
Ouais, je le pensais plus ancien parce qu'il a un style quand même assez old school. Hein. Mais les années 60, c'est pas étonnant parce qu'en fait, finalement, c'est... les premières études, enfin pas les premières, mais c'est un moment où on investit vraiment les recherches, la recherche scientifique sur le plaisir féminin, avec ceux dont on parle le plus souvent, mais il y en a d'autres avant, c'est Master et Johnson. Et donc, d'ailleurs, il y a une série qui parle de ça, c'est Masters of Sex, qui est plutôt bien faite, qui montre aussi tous les problèmes scientifiques, d'échantillonnage qu'ils ont, parce que bah, ils se retrouvent avec des personnes hétérosexuelles et ils mettent de côté toutes les personnes lesbiennes, gays, etc.
C'est un gynécologue, c'est ça, et,
voilà,
et son assistante.
Et
c'est comme ça qu'on me présente.
Hein, son assistante a un rôle très important.
Voilà,
mais
on se le disait avant l'émission. Hein, c'est, vous voyez, je vous coupe à l'instant. C'est pas correct. Voilà, c'est un mâle de 40 ans blanc. C'est le cas de William, c'est ça, Masters, et puis Johnson, c'est. Donc oui, Clickin, comment parler de cette série ou comment parler de ces années 60?
Eh bien, non, mais voilà, c'est en fait, c'est un moment où on investit du coup la recherche scientifique sur la sexualité féminine, mais on est encore en fait dans un moment de l'histoire où c'est les hommes, malgré tout, qui sont au poste important de recherche. Johnson n'est que l'assistante de Master, donc elle est assez limitée et on le voit un peu dans la série aussi, les problèmes que ça suppose de genre. Donc voilà, et puis en fait après il faut attendre, donc il y a les années 60, 70 aussi de libération sexuelle, de mouvements féministes très importants, etc. Mais voilà, au niveau de la recherche, finalement Hélène O'Connell, on en parlait tout à l'heure, en 98 quand elle redécouvre l'anatomie, elle est la première femme urologue en Australie. C'est la première femme à devenir urologue en Australie. Et elle devient urologue en 93.
Oui, attention, il faut bien 1900. Hein,
voilà. 1993.
On n'est pas en 1800.
C'était il n'y a pas longtemps. Ah il faut quand même réaliser. C'était il y a 30 ans. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des retards aussi, aussi importants.
À 14h et presque 30 minutes, nous recevons, bel honneur quand même, si c'est un grand honneur, nous recevons Clitin Dastreet, c'est un peu le nom complet, comment qualifier, on a dit street graphiste, street artiste, artiste sur les pariétales, sur les murs lyonnais, donc ce sont ces petits bonshommes qui sont des clitoris. Vous avez peut-être croisé Clint Eastwood, j'aime beaucoup celui-ci, Takeshi Kitano, Princesse Mononoclite, il y a également les femmes, hein, Bricklit Fontaine, Gisèle Aliclite, et donc tout cela, c'est, à l'instant on évoquait des hommes, et je vous remercie pour cette recommandation de lecture, hein, pour préparer l'émission L'Origine du Monde, une bande dessinée de Liv Strömquist. Nous sommes en train de parler de ces hommes qui se sont un peu trop intéressés à ce qu'on appelle les organes féminins. Donc nous recevons cet artiste pour évoquer son œuvre et puis évoquer peut-être, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, là, un propos, enfin comment dire, ce n'est pas que pour le plaisir de l'œil, même si c'est vraiment très joli ces petites formes, puis c'est toujours très amusant les jeux de mots, puis les costumes que ces personnages peuvent avoir, mais à travers cela, Clitin, attention, je ne suis pas encore en train de qualifier la chose de frivole, mais c'est qu'il y a une réflexion, il y a une idée, on s'en parlait tout à l'heure avant l'émission, de diffusion, transmission. Donc comment Clitin évoquait ces choses-là, ce clitoris qui est un organe dont on a un peu parlé, Renaissance, et ça c'était, ensuite on n'en parle plus du tout, 20e siècle c'est absolument terrible, oui on en parle, mais 20e siècle je crois plus, vraiment 1900-1950, je crois que les références sont très peu importantes, et puis redécouvertes par Hélène O'Connell. Donc que dire encore sur cet organe, sur ce clitoris? Il y a une forme de réappropriation qu'il faut faire, et c'est là où moi je dois me taire. Ce n'est plus l'animateur qui doit parler, mais c'est l'invité. Clitin, faut pas rire ni sourire, il faut
non, mais c'est que c'est une question très vaste, en fait. Il y a tellement de choses à dire. C'est que, bon, déjà, comment une femme peut développer une sexualité saine et respectueuse de sa personne, de son corps, si elle ne connaît pas sa propre anatomie? Très très compliqué. Donc le premier enjeu c'était ça. C'était parce que moi j'étais en colère quand j'ai vu la modélisation du clitoris la première fois. Je me suis dit mais c'est pas possible. On nous raconte des salades. On nous parle d'orgasme clitoridien, d'orgasme vaginal depuis des
Freud,
siècles. Freud en effet a été important, mais en fait c'est pas que Freud. C'est que pourquoi, en fait, on va peut-être revenir à la Renaissance. Pourquoi à la Renaissance, ces anatomistes, le cartographie, le situe dans le corps, etc. Enfin, il y a une connaissance scientifique qui est validée par les scientifiques au prix d'arrangements. Parce que, en fait, pourquoi c'est derrière, pour, pourquoi ça s'oublie, parce que c'est ça la question. Pourquoi on l'a trouvé et pourquoi derrière il faut le redécouvrir ? Eh bien parce que, premièrement, il y avait un paradigme scientifique à cette époque qui n'aidait pas. On estimait qu'il y avait un sexe unique et symétrique. Donc déjà, on balayait les personnes intersexes. Il y avait soit un sexe femelle, soit un sexe mâle, parce que c'est ça les vrais mots, hein. C'est des mots qui sont un peu chargés aujourd'hui, mais... C'est comme ça en biologie qu'on parle, en fait.
Très binaire, oui.
Voilà, donc il n'y a pas une histoire de genre. On parle de sexe biologique, mais à cette époque, évidemment, il n'y a pas de place pour les personnes non binaires, etc., ou les personnes intersexes au niveau du sexe biologique. Et donc, ce modèle de sexe unique et symétrique, ça veut dire qu'il y a un pénis qui est externe et son équivalent interne, la vulve, le vagin, parce que ce sont plutôt vagins. Alors après, ils mettent aussi l'utérus à cette époque, etc. Mais c'est, non, c'est le vagin. Et puis, on estime du coup qu'on fait des équivalences. Par exemple, le sperme, l'équivalence, ça va être la lubrification de la vulve. Ils pensent que c'est pas l'ovule qui est fécondé, mais que c'est un mélange entre le sperme et... Et donc ça c'est très compliqué parce que quand les anatomistes tombent sur le clitoris, ils sont bien embêtés parce qu'ils se retrouvent avec un truc qui a un plus en plus d'un côté et pas de l'autre. Donc ça c'est un premier élément. Et puis ensuite, du coup, eux ils se disent pénis égale homme, donc je parlais dans leur terme, vulve égale femme. Donc ils se disent, mais déjà un, comment la femme peut avoir quelque chose de plus ? C'est pas possible. Deux, comment ça se fait que ce clitoris il soit pas lié à la reproduction ? Parce que chez l'homme, le pénis assure les deux fonctions. Alors, donc il y a un espèce d'arrangement fallopio, il dit, il le met dans l'utérus. Je sais pas si c'est un tour de passe-passe ou s'il y croit vraiment. Ça pourrait être aussi un scientifique malin qui se dit, bon, je vais quand même, on va bricoler et on va faire comme ça. Et ça règle les deux problèmes parce que, du coup, on le remet dans la reproduction. Donc, et puis après, on le fera avec le vagin. On dira, le plaisir se loge dans le vagin, alors que sinon, c'est le clitoris. Et puis, ça règle le problème, puisque l'utérus n'est pas l'organe génital, il n'y a pas quelque chose de plus. Donc, ça règle les deux soucis. Mais le problème, donc la science fait ce travail-là, au prix d'arrangement quand même. Et puis après, ce qui se passe, c'est que la société n'est absolument pas prête. Parce qu'en fait, ce qu'on voit est très bien dans le livre de Delphine Gardet...
L'histoire politique du clitoris.
Voilà, la politique du clitoris, c'est qu'elle montre qu'en fait, les hommes qui sont en plus à des postes clés de recherche, qui font des travaux douteux, en fait, ils sont obsédés par l'idée que, un, la sexualité de la femme puisse se passer du pénis, et donc deux, donc, voilà, et deuxièmement, que les femmes puissent... j'ai perdu le fil du coup. Mais en gros, voilà, il faut pas... Et donc, ils vont créer des équivalences, ils vont décaler le débat, s'intéresser à la partie qu'on voit à l'extérieur, donc le gland du clitoris, et ils vont faire des équivalences, donc ça, Liv Stromquist le fait très bien dans le livre aussi, pour dire gros clitoris, pratique déviante. Donc, les pratiques déviantes, c'est quoi ? La masturbation, le lesbianisme, la désobéissance au mari, et des pathologies. Alors, la folie, la dépression, l'hystérie, entre guillemets, parce que j'aimais bien ça à l'époque.
C'est le mot lui-même.
Et ça, il y a des productions scientifiques ultra douteuses qui durent jusqu'au XXe siècle, pour être tout à fait sincère. Freud n'est qu'un gugus parmi d'autres qui dit des bêtises, en fait. Après, c'est pas le pire, parce qu'il a quand même, il s'est quand même intéressé à la frustration sexuelle chez la femme. C'est peut-être le seul... qui s'est intéressé à ça. Mais voilà, et après, y a une police des mœurs qui se met en place où, en fait, on va contrôler la sexualité des femmes. Et donc, si elle a un gros clitoris, forcément, ils sont obsédés par l'idée qu'elle puisse pénétrer d'autres femmes. Et donc, ils coupent les clitoris. Enfin, on parle souvent de l'excision ailleurs que chez nous. Mais je tiens à signaler que, jusque dans les années 40, en Occident, on a excisé des femmes. Alors, c'est pas un phénomène massif comme on peut le voir en Afrique par exemple, dans certains pays africains, mais avant de regarder chez le voisin, il faut quand même connaître notre propre histoire. Je signale qu'en 43 aux États-Unis, on excise une petite fille de 5 ans parce qu'elle se masturbe.
Clitoridisectomie, c'est ça le...
Ouais.
Exactement, voilà, ça, il y a un mot savant, mais bon, ça reste une pratique.
On coupe le clitoris.
Comme on l'a qualifié, barbare et puis irrespectueuse, non, plus qu'irrespectueuse, enfin dégradante, inhumaine. C'est,
Et Delphine Gardet finit son livre En quoi ça nous occupe aujourd'hui encore. Bon, déjà, comme je disais, on a toujours voulu loger le clitoris dans la reproduction, l'associer tout le temps. Donc voilà, récemment, jusqu'à récemment, c'était le vagin, on était obsédé par le vagin. Parce que voilà, et puis ensuite elle finit gardée sur un truc quand on, enfin, je reviens sur l'excision, mais sa conclusion est vraiment intéressante. Elle dit, avant d'aller regarder en Afrique, on devrait s'interroger pourquoi il y a des femmes qui se font des chirurgies esthétiques de la vulve avec des chirurgiens qui ne connaissent même pas très bien l'anatomie du clitoris et qui en faisant font des ablations en fait et qui coupent le clitoris de leur patiente. Comment des femmes en arrivent aujourd'hui à estimer que leur vulve n'est pas esthétique et qu'il faut la charcuter, en gros, quoi. Donc aujourd'hui, on se trouve à des femmes, face à des femmes qui s'excisent toutes seules. Mais pour moi, elles ne s'excisent pas toutes seules. C'est parce qu'elles ont subi des violences, parce qu'on veut toujours montrer qu'un beau sexe féminin, c'est celui d'une petite fille. Et il y a toute une culture aussi de la pédophilie qui va avec ça. Et ça, on l'interroge très peu. Et je trouve ça vraiment triste. Donc c'est aussi tout ça, l'enjeu. Rappeler l'histoire, dire qu'il a été trouvé, mais ça a été invisibilisé par des débats complètement délirants qui avaient pour vocation quand même de contrôler le corps de la femme et sa sexualité, de la mettre au service des hommes. Alors je suis sûre qu'il y avait... que tous les hommes n'étaient pas horribles, hein, c'est pas mon propos, mais il y a cet héritage très lourd. Et puis après, bah voilà, on le voit encore aujourd'hui. Et même si la parole se libère, etc. Enfin moi, voilà, si je peux dire que je suis féministe, bah, c'est ma bataille, c'est l'intime, et c'est ça le mouvement d'aujourd'hui. C'est l'intime, c'est MeToo, c'est la libération de la parole, c'est parler des violences sexuelles, c'est parler aussi du fait qu'on n'a pas accès à la connaissance ou que très tardivement. Et tout ça, ça pose des problèmes très profonds qui affectent à la fois les femmes et les hommes aussi, parce que comment un homme hétéro peut satisfaire sexuellement sa partenaire s'il n'a pas accès non plus à ces infos, enfin, voilà. Et puis, bah, imaginez qu'un beau sexe, c'est celui d'une petite fille. Franchement, il faudrait se poser des questions sur pourquoi on pense comme ça.
C'est une phrase en exergue dans la troisième partie. Clito Today, Clit Artefact, Clito Straight, Lesbien ou Queer, Histoire politique du clitoris. Et donc, cette phrase est effectivement assez violente, hein, très courte, hein, deux lignes. Notre inquiétude, c'est d'opérer des gens qui n'en ont pas besoin. Voilà. C'est à ça que vous faisiez allusion, Clitine, à propos de la nymphoplastiste, un chirurgien qui prononce ce propos en 2016. Et c'est une parole recueillie dans un ouvrage collectif. Hélène Martin, Rebecca Benjama et Raphaël Bessette-Viens. Et c'est également repris dans Delphine Gardet et Marilène Vuille, Les sciences du désir, la sexualité féminine, de la psychanalyse aux neurosciences. Et cet article ici, c'était Adapter le sexe au bien-être, la chirurgie esthétique des organes génitaux féminins, 2018. Oui, c'est assez récent.
D'ailleurs, nymphoplastie, en fait, la nymphe, c'était le nom qu'on donnait au clitoris avant la Renaissance. Enfin, avant même. Nymphe, c'est un synonyme de clitoris, en fait, à une certaine période.
Je l'indiquais tout à l'heure, on va faire une autre pause, mais je pense que certains auditeurs, certaines auditrices doivent être... On veut davantage d'éléments pratiques, d'éléments, comment dire, d'éléments, des objets. Est-ce qu'on peut trouver quelques tirages, quelques impressions des personnes... Non, ce n'est pas des personnages, des petits clitoris que vous faites, ou même ce calendrier que j'évoquais. Oui, je crois que ce n'est pas très très loin de cette place Satonnet où nous nous trouvons, nous, à Radio Canu. La rue Pizet, elle se trouve...
Se trouve à côté de l'opéra, et donc c'est à la librairie à soi, librairie féministe.
C'est l'ancienne Musique à l'âme, c'était à une époque auparavant.
Voilà, ouais. Donc c'est là-bas que ça se situe. Sinon, il y a la Belle Alice, sur le plateau de la Croix-Rousse, rue du Mont, qui vend aussi mal de choses.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver?
Voilà, et donc on peut trouver des cartes postales, des badges, des... Enfin, voilà,
Des tote bags? Est-ce qu'il y a des
non,
tote bags?
Y a pas de tote bags.
Pas encore?
Il y a un calendrier, mais il n'y en a plus beaucoup, pour être tout à fait honnête.
2024, c'est ça, oui.
Ouais.
Et c'est donc tous les mois de l'année, les 12 voilà, mois avec des personnages?
Enfin, alors, c'est plutôt des humeurs. Pour donner un exemple, il y a l'instant poéclite en mars pour le printemps. Voilà, c'est plutôt des humeurs comme ça. Il y a quand même un ou deux personnages. Et puis voilà, après, sinon, il y a des prints, c'est voilà, des tirages limités. Et puis bah après quand il y a une expo, bah là il y a des originaux. Mais voilà. Et puis sinon je fais quand même un marché de Noël à jour de fête qui aura lieu le 10 décembre à Villeurbanne.
Mais c'est tout proche ça, c'est ouais. Dimanche c'est ça je crois.
Ouais.
Auditeurs, auditrices, nous n'avons pas encore fini, il reste davantage de choses à dire. D'ailleurs il me semble que nous étions, quand nous sommes parlé il y a de cela quelques temps, vous m'aviez indiqué avoir un pas un prochain projet, mais vouloir rester sur les personnages clitoris, mais passer sur une autre partie du sexe féminin. Auditeurs, auditrices, vous souhaiteriez en savoir davantage, vous allez, mais seulement une fois que nous aurons écouté l'autre titre que vous m'avez recommandé. Merci beaucoup, Clitine. Ce titre, c'est Fat Freddy's Drop Blackbird. Comment le présenter peut-être en deux mots? C'est moins clitoris, c'est moins Colette Renard, c'est seulement des humeurs, c'est ça?
C'est un morceau que j'écoute beaucoup récemment, et déjà, c'est un esprit assez fanfare. Donc, moi, j'ai grandi dans le sud, c'est plutôt brass band, mais tout ce qui me rappelle les cuivres me rappelle la fête. Dans le sud, j'ai une oreille très sensible à ça. Et puis sinon aussi c'est parce que Blackbird ça veut dire merle en français, c'est mon oiseau préféré, et je crois pas qu'il parle de merle au final, je pense qu'il parle de corbeau. Et puis en fait c'est une chanson qui m'a beaucoup inspirée pour un projet que je suis en train de faire.
Blackbird in my garden.
C'est avec l'accord de Clitine que je coupe la fin du morceau de Fat Freddy's Drop Blackbird. C'était un titre qu'elle nous a suggéré d'ailleurs. Merci beaucoup Clitine, c'est avec son accord que je me permets ça, parce que oui, il reste encore beaucoup à dire. J'ai aussi quelques annonces à faire. Il n'y aura pas auditeur auditrice de chronique littéraire de Francis. Je suis le premier surpris, moi aussi je pensais qu'il reviendrait. J'espère qu'il nous écoute, je lui parlerai. Donc il nous reste encore quand même quelques adresses à donner, puis quelques indications. Pourquoi, hein, on s'est mis d'accord pour cette question, Clitine, je crois, hors antenne, pourquoi en passer par des dessins qui soient anthropoïsés, qui soient des... Enfin, bref, pourquoi faire des personnages de clitoris, le Clit Horus, le Takeshi Clitano, le Clit Burton, Gisèle et Clit, j'en ai d'autres, hein, je les ai sous les yeux, il y en a d'autres encore, il y a aussi Anarchlit, il y a également Super Clit, très bien, il y a aussi Anaclit Skywalker, un Clito je suis, il y a aussi la princesse Monoclit, ça j'avais déjà fait, il y a Marie Clit Monroe, Clity et Grominet, et puis bien entendu Clit Haring, c'est très bien. Donc pourquoi en passer Clit meets Clit, oui.
Sans voir le dessin, c'est un peu compliqué.
Néferticlite, ce serait peut-être un peu ça.
Néferticlite qui rencontre Clit Simpson.
Ah oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Donc pourquoi en passer par des personnages, par des bons hommes? Car il y a une réponse à cette question.
En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que... j'ai fait ça intuitivement, mais avec le recul, je pense que j'ai eu une bonne intuition, c'est de... Déjà, l'image, comme on le voit pas, il est sous la vulve, dans la majorité, cet organe, il faut qu'on puisse... quand on voit le dessin, on se dit « Mon Dieu, mais c'est tout ça !» Et on comprend déjà beaucoup mieux.
Et parce que les piliers et puis les bulbes font le entour, enfin du moins en serre.
Sont à cheval sur le vagin, en gros, quoi. Comme sur un cheval, quoi.
Non, on parlait de 10 cm, plus ou moins, autour de 10 cm, quoi.
Ouais. Et donc, il y avait ça. Et puis après, associer une référence partagée à un organe inconnu, ça aide à retenir. Et puis si en plus il y a un peu d'humour et qu'on suggère une émotion, je pense qu'on apprend mieux. Donc il y avait un peu... Paris-là, que j'ai fait intuitivement. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un enjeu qui fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt sur cette partie-là, que le street art, etc. Je pense qu'il y a un grand besoin de revoir l'esthétique des dessins et de tous les éléments de prévention sur la santé sexuelle, parce que soit c'est ultra biologique, froid, type SVT,
rébarbatif.
Donc il n'y a pas d'émotion, etc. Soit c'est très cucu la praline. Et donc comment on fabrique quelque chose d'autre? Et donc moi je suis allée plutôt puiser dans le cartoon, peut-être, ou la bande dessinée. Et donc voilà. Et donc il y a aussi ça qui m'anime, sachant que j'ai enseigné. Je viens d'une famille aussi où il y a pas mal de profs. Donc,
c'est une très bonne chose.
Voilà, le prof. La transmission, c'est quelque chose, la pédagogie, c'est quelque chose qui est important aussi dans ma famille. Et après, mes dessins sont très empreints de l'esthétique de mon grand frère aussi, hein, les yeux qui louchent, le côté humoristique, faire des blagues de ce qui n'est pas drôle aussi, pour un petit peu rire un coup avant d'aborder le sujet en profondeur, parce qu'il ne s'agit pas non plus de rire et de ne pas parler qu'il n'y ait pas de profondeur. C'est tout ça. Et donc, d'ailleurs, je travaille actuellement avec une asso de sages-femmes, Périnée Bien-Aimée, qui est une super association qui travaille sur les pathologies, les douleurs vulvaires, qui sont spécialisés là-dedans. Donc je fais beaucoup de choses aussi en contenu. On fabrique des affiches de sensibilisation pour un peu rafraîchir, parce que les professionnels de santé, les militantes du planning familial, etc., elles manquent cruellement de ressources, en fait, de prévention. La dernière fois, il y a une gynécologue du planning familial qui m'a écrit en me disant « J'ai dû fabriquer moi-même une affiche sur la contraception masculine, parce qu'il n'y en a pas. J'en ai pas trouvé. » Et elle me demandait une affiche sur le genre, du coup aussi, parce qu'elle trouve pas ce qu'elle veut. Voilà, c'est donc j'utilise les personnages pour ça. Et puis bah voilà, quand je dois faire les fonctions de la vulve, bah là, c'est une vulve que je dessine. Donc ça élargit. J'aime beaucoup parce que ça élargit mon panel de dessin. Panel, je sais pas si le mot. Des fois, je dessine des crottes aussi. Je reviens à mon instinct très primaire et j'adore ça. Je trouve ça très rigolo. Et puis, voilà. Et puis à côté, il y a aussi donc Blackbird, c'était un petit peu autour de ça. C'est un projet là de bande dessinée avec une asso lyonnaise qui fait de l'accompagnement de victimes de violences. Donc voilà, où j'utilise le corbeau est un personnage très important dedans. Donc voilà, ça amène à ça, bande dessinée qui a été possible grâce aux éditions Libertalia qui m'ont offert cette possibilité-là en 2021 alors que j'étais aux prémices de la bande dessinée, qui m'ont fait confiance et je les remercie énormément. Je dis les parce qu'il y a Charlotte Dugrand et Elsa Dorlin qui a dirigé l'ouvrage.
Un bel ouvrage, un gros ouvrage.
Qui est génial, qui est passé un peu trop à la trappe, je pense, mais qui est un sacré ouvrage sur le féminisme d'en bas, en fait, dont on parle pas. Quoi.
Le titre est très simple, hein, très net, un feu. Abécédaire des féminismes présents. Donc abécédaire, il y a différentes lettres et vous avez illustré la lettre O.
O comme orgasme.
Et donc, il y a tout un tas d'autres éléments. Je vois l'entrée suivante, c'est Oui, 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 par Véronica Noceda. Donc oui, vous estimez qu'on n'en parle pas assez, un prix complètement modique vu le volume.
Oui, 20 avec euros pour 68 autrices quand même. Parmi elles, il y a aussi des grands noms hein, du féminisme, Adèle Haenel, Ovidie, Wendy Delors,
Rokhaya Diallo.
Voilà, j'en oublie évidemment plein. Et donc c'est un super ouvrage qui en fait est sorti à un moment de foisonnement d'ouvrages féministes qui est un peu passé à la trappe. Et franchement, moi je vous dis, allez l'acheter parce qu'il est vraiment super. Et il y a, je sais plus, 68 entrées dans cet abécédaire quand même. Gros challenge. Et il brasse énormément de sujets. Il est intersectionnel, radical aussi.
Et donc avec Libertalia, c'est peut-être qu'on est parti sur...
C'est Libertalia qui m'a contactée, qui m'a demandé, parce qu'il y avait beaucoup d'écrits, qu'ils étaient intéressés avec le format BD, en fait, bande dessinée, illustration aussi, de raconter une histoire. Donc en gros, cette histoire, c'est Clit, mon petit perso, qui n'est pas déguisé, cette fois-là.
Oui, il n'y a pas de pseudonyme.
Alors pourquoi parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais qu'on peut comprendre, je pense, dans ma façon de parler, mais je distingue vraiment le sexe biologique du genre. Donc, je l'ai mis, il est neutre ce personnage pour qu'une personne qui a une vulve et qui est un homme, parce que ça existe, hein, n'en déplaise à beaucoup de gens, ça existe, ils sont là, ces personnes existent, et donc l'idée c'est qu'elles puissent aussi se reconnaître. Il n'y a pas que des femmes qui ont une vulve. Et donc, voilà. Et donc c'est ce petit personnage qui en fait est assez inexpérimenté, je pense, qui cherche son plaisir et puis qui a quand même beaucoup de difficultés, qui est obligé de parler avec ses petits potes Clit parce qu'il a du mal.
Il y a un docteur Fred.
Il y a docteur Fred qui ne lui vient pas du tout en aide. Et voilà, et donc c'est
mais sûr, il trouve une solution, ça se finit bien. Il y a un happy end.
Il finit dans un endroit très fictif que je trouve très drôle.
Donc j'ai mal saisi. Allez-vous publier autre chose chez Libertalia ? Ou non, c'était la première rencontre et
Pour l'instant, voilà, y a des projets en cours, mais pour l'instant, on verra. On n'en parle pas plus.
14h55, fin d'émission. Je pourrais faire mes annonces. Oui, je vais faire mes annonces parce qu'il restera encore un peu de temps après pour que nous évoquions l'adresse peut-être de ce. Marché de Noël, en quelque sorte, c'est ça, qui sera Villeurbanne, hein. Ça n'est pas sur la place Carnot à Perrache. Ce n'est pas le marché de Noël pour
c'est
trouver
trop cher pour nous.
Pour y trouver du pain d'épices ou d'autres choses. Moi, mes petites annonces, ben ça y est, voilà, le mercredi 6 décembre, dans moins de 3 semaines, Noël sera passé. Donc, mais c'est pas encore tout à fait en place les concerts ou les spectacles de fin d'année. Là, il va y avoir un premier, commençons avec de la musique, un premier ciné-concert est à venir. Il commence demain, jeudi 7 décembre, jusqu'à ce samedi vendredi 9, en passant par le vendredi 8. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un ciné-concert à l'auditorium, c'est-à-dire que le film est projeté, petite heure et quart, et la musique de Danny Elfman sera jouée par les musiciens de l'ONL, l'Orchestre National de Lyon, qui seront sur scène. Il y a également d'autres concerts à venir, le surlendemain, le lundi 11 décembre, Marisa. Il y aura aussi Maria et Tchaïkovski. Alors Marisa, c'est une artiste portugaise du Fado, lundi 11 décembre. Maria, c'est également une artiste portugaise, Maria João Pires, elle viendra jouer du piano le jeudi 14 décembre. Tchaïkovski, non, c'est un russe, c'est la suite Casse-Noisette qui sera jouée le samedi 16 décembre. Et puis c'est intéressant, l'Orchestre National de Lyon est aussi, en cette fin d'année 2023, est très présent dans les bacs. 5 CD, disons 4 CD, mais enfin 4 albums, mais 5 CD sont sortis dernièrement. Il y a eu très récemment Aux Étoiles, ce sont des poèmes symphoniques enregistrés en 2021-22 qui sortent. Et c'est donc un coffret, ce sont deux CD. Pour ce qui est de Benjamin Biolay, c'est un CD seul qui a été enregistré, je crois, l'été dernier, peut-être à Audu de Fourvière, ou non, ça a été fait auparavant. Les chansons de Benjamin Biolay ont été orchestrées pour grand orchestre. Il y a aussi Ron, le DJ, qui a sorti, c'est fait sur 2 années, un CD de ses œuvres qui, pareil, ont été orchestrées et sont interprétées par l'Orchestre National de Lyon. Et enfin, Camille Pépin, assez compliqué à trouver son album. Je crois que je devrais pouvoir mettre la main sur un exemplaire, et cet artiste était associé, je ne sais plus si c'est encore le cas, Camille Pépin était associé à l'ONL les saisons dernières. Et il y a un bel album qui est sorti très récemment. Il est sorti en avril, je crois, mais il a passé un été un peu compliqué. Et là, dans les bacs, il est assez difficile de le trouver. Certaines de ses œuvres, les eaux, j'ai perdu le nom, les eaux planantes, il y a un terme comme cela, étaient vraiment très belles. C'était joué la saison dernière. Voilà. Pour le théâtre, il y a deux pièces à venir. Les Gros patinent bien, avec Olivier et Martin Salvan. Ça commence le mardi 12 décembre prochain. C'est donné jusqu'au samedi 6 janvier. Et en fait, si, c'est un de ces spectacles de fin d'année, mais vous voyez, 12 décembre, ça commence quand même bien avant la date de Noël. Et puis une autre pièce aura lieu au TNP, La mort d'une montagne, du mercredi 13 décembre au vendredi 15, c'est la semaine prochaine, avec c'est François Hayen qui a écrit le texte. Peut-être qu'on pourrait le recevoir en janvier prochain avec son nouveau projet au TNP. Éducation nationale, c'est le titre de sa pièce. Les expositions, celle du Musée des Beaux-Arts a commencé, Forme de la ruine, et puis sinon d'autres continuent encore. Soigner, accueillir, guérir, je crois que c'est cet ordre, ou accueillir, guérir, soigner, c'est aux archives départementales. Il y a également Rire du pire, Rire avec Willem, c'est à la Bibliothèque municipale de Lyon, et puis il y a encore, je ne sais plus ce qu'il y a comme exposition, il y en a tout un tas, plein de choses. Des spectacles, certains sont à venir aussi, et c'est très bien. Le marché, si on veut clitine, acquérir quelques... Vous viendrez avec quoi? Des tirages, c'est ça? Des impressions, vous aurez
Un petit peu de tout.
Les badges, c'était ça tout à l'heure? Des épinglettes, là je crois, les pins. C'est à Villeurbanne, sur une place
Au square Jacques Prévert, exactement. C'est organisé par l'atelier Tolstoï.
Si on veut davantage de renseignements, comment est-ce qu'on peut vous suivre? Vous avez une page Facebook, je crois, mais c'est... Non,
Clitine, c'est ouais, Clitine sur Facebook, sinon c'est plutôt, Instagram. Clitine d'Astrid, sinon le Clitionnaire qui est plus... Qui peut, pour ceux qui veulent plus d'infos, etc., qu'ils aillent voir celui-là.
Je crois qu'on a tout dit. Non, et de toute façon, vous le savez, auditeur, auditrice, mais vous ne le savez pas, Clitine, chaque fin d'émission, je dis on a tout dit, mais non, on n'a pas tout dit, il y aurait encore beaucoup de choses. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être se proposer de se revoir, si vous avez une autre actualité ou je ne sais pas, un moment comme cela, on se laisse du temps en juin prochain ou même une autre année, mais on garde nos coordonnées. Auditeur, auditrice, vous, ne partez pas tout de suite. On va se quitter avec un titre, Isabelle Adjani, qui, oui, a sorti un album dernièrement, un album de duo, et il me semblait que ce titre pouvait peut-être clore l'émission. Où tu ne m'attendais pas. C'est un duo, c'est intéressant. Isabelle Adjani avec Christophe. Alors oui, c'est très binaire, hein. Un homme, une femme, alors que c'était très bien ce propos final sur des hommes avec des vulves. De la même manière que je suppose il existe également des femmes
avec des pénis,
des attributs génitaux masculins. Donc là, c'est un homme, une femme, Adjani et Christophe. Mais ce titre est assez intéressant. Extrait de la compilation des Inrecuptibles, novembre 2023. Clitine, merci.
Merci beaucoup.
Vraiment très intéressant. Auditeur, auditrice, si vous souhaitez réécouter l'émission, elle sera en ligne sur le blog. Pour ce qui est de la suite des émissions à venir ce mercredi 6 décembre, dans quelques instants, pas tout de suite en fait, l'émission Blues des Canus s'est décalée. Elle commencera à 16h, Mayday à 18h, Canu Info à 19h. Idée Noire, une émission de l'UCL de 20h à 21h. À 21h, ce devrait être la bande-son de nos révoltes. Et puis à 22h, jusqu'à minuit, Boulimix, émission Funky Stéry. En attendant, les bandes continuent dans quelques instants. Peut-être pourrez-vous écouter, retrouver le titre de Colette Renard, Les Nuits d'une Demoiselle, de 1963. Pour l'instant, Isabelle Adjani pour se quitter. La semaine prochaine, éditeur auditrice. Et la semaine suivante, encore deux émissions pour finir l'année. Qui viendra ? Nous verrons bien. Portez-vous bien. Merci beaucoup, Clitine.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Et si un jour j'étais là où tu ne m'attendais plus, faisais plus. Et si encore j'étais là où tu m'as trop attendu, sans que je te prévienne, qu'en dis-tu? Voudrais-tu encore de moi ou m'en voudrais-tu encore? Que je vienne jeter un sort, j'irai où tu iras pour être juste là. J'étais là, troublée, tous les imprévus, pour que tu te souviennes au moins d'un peu de vécu. Et si c'était toujours là, pas tout à fait disparu, ce jour en vaudrait la peine. Qu'en dis-tu? Tout à fait disparu, ce jour en voudrait.